Épidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République.
C'est parti, salut Alessandra.
Et hey, salut Lynn.
Comment ça va?
Eh bien écoute, là, en pleine forme, on s'apprête à vivre un moment assez dingue là. Hein.
Oui, alors c'est assez tôt le matin et on est dans un train pour Berne, la capitale de la Suisse, où on va en fait à la FEMVO, un rassemblement féministe dont on va vous parler. Mais comment c'était ton été déjà, Alessandra? Ça fait longtemps.
Écoute, c'était un été délicieux. J'ai dû à la fois travailler sur un article scientifique très sérieux et à la fois j'ai eu l'occasion de me baigner en veux-tu, en voilà, même dans la mer, dans plein de lacs différents. Et je voulais te raconter un truc aussi que j'ai vécu fin d'été. J'ai commencé le jujitsu. Et le jujitsu...
Le jujitsu.
Donc le jujitsu, c'est un art martial de défense et j'ai trouvé trop drôle, je voulais t'en parler. Donc ce que je trouvais génial, c'est cet engagement du corps. Tu vois, parce qu'on se fait des prises, on se touche, on se serre, on se fait tomber, tu bloques l'autre à terre, tout ça. Et de remettre en fait le contact corporel dans la relation, tu vois.
Est-ce que ça se fait avec des habits particuliers?
Bon, moi, j'étais la grosse touriste parce que c'était mon cours d'initiation d'essai, si tu veux. Donc, tout le monde est effectivement en beau judo propre en ordre. Et puis, moi, j'étais avec mon training débile. Tu vois, le fait d'aller passer un moment avec des gens et en fait, tu causes pas avec eux, mais tu rentres en contact corporel. Et il y a une sorte d'immédiateté, tu vois. Quelqu'un fait quelque chose, tu fais un autre. C'est action-réaction, comme ça, dans une sorte de duo, tu vois, de numéro de duettiste qui passe pas par le mental, mais par le corps. J'ai adoré. Puis bon, alors évidemment, il y a toutes sortes de dimensions de genre. Qu'est-ce que les gens projettent sur moi du fait que j'habite un corps féminin. Et puis, tu vois, par exemple, donc j'étais avec mon frère. C'est un cours que mon frère suit depuis de nombreuses années. Et je me suis incrustée là, moi, cette année. Et donc, il me présentait, c'est ma sœur, c'est ma sœur. Et donc, à un moment donné, on devait faire une série d'attaques comme ça, à défense, à trois. Et puis, j'étais avec mon frère et le deuxième gars. Donc, il regarde mon frère, puis il dit t'es d'accord que j'y aille sur ta sœur? Et puis, tu vois, je le regarde, puis je dis, mais tu sais, je ne lui appartiens pas. Puis après, tout de suite, c'est toujours les mêmes schémas. D'un coup, je me sens mal, je me dis, merde, j'étais trop agressive, tu vois, c'est mon premier cours, je vais foutre la honte à mon frère et tout, parce que... Et puis, en fait, c'est quand même dingue, tu vois, je rentrais, j'en parlais chez moi, puis je disais à mon compagnon, mais on t'a déjà fait ce genre de remarque, parce que c'est quand même fou, quoi. Bon, bref, puis il a bien vu que j'y allais avec plaisir. Donc voilà, et puis moi aussi je vois des différences quand on s'engage dans un duo avec une femme ou avec un homme, parce que oui, l'idée c'est pas de nier des différences qu'il y a entre les hommes et les femmes, mais c'est une occasion de réfléchir de nouveau d'où elles viennent, qu'elles sont pas naturelles innées, mais elles dépendent de notre éducation.
T'as déjà fait des arts martiaux avant? Ça t'est venu d'une envie particulière?
Mais moi, j'ai pratiqué les arts martiaux, entre guillemets, soft, dans le sens du Qigong, des choses comme ça, où tu retrouves quand même une base commune de travailler l'énergie, d'être canal. Et ce qui me plaît vraiment, et puis c'était, je crois que c'est vraiment le message que je retiens de cette première fois, et que j'avais connu aussi par ailleurs, mais c'est toujours cette quête d'équilibre. Tu fais un mouvement et après, paf, il faut que tu retrouves ton ancrage et ton équilibre. Et ça, vraiment, ça m'a mis en joie parce que c'est une très chouette leçon existentielle.
Parce que moi aussi j'ai fait quand même pas mal d'arts martiaux, de l'aïkido, du Shaolin, qui est très... Il y a une blague super, Shaolin, ok, bon, enfin bref. Mais moi, je comprends ce truc d'équilibre, mais moi ce qui m'attire c'est surtout en fait la force. Tu vois, le fait de pouvoir mobiliser ta force en fait.
Bah, c'est clair, c'est le se confronter. C'est tout d'un coup de rentrer en contact où tu te confrontes. Mais par rapport à ça, c'est presque un peu frustrant parce que c'est pas, tu dois retenir ta force. Parce que là, tu es quand même dans un rapport où tu peux pas, tu vas pas pour cogner, quoi. Donc il y a presque une petite... il faut respirer un grand coup et canaliser cette énergie de force que tu aurais envie de déployer parce que c'est pas forcément le lieu.
Toi, tu dis canaliser et contenir. Je dis maîtriser. Tu dois maîtriser ta force.
Minute de silence pour réfléchir à cette différence. Bon, et t'as la niaque, toi, pour cette nouvelle saison qui commence alors?
Oui, je suis hyper excitée, c'est génial, je me réjouis tellement. Et puis c'est chouette aussi de faire ce premier pod de la saison un peu mobile, du coup. Oui, alors, donc, comme on a dit au début, nous sommes dans un train en route pour Berne, un petit peu en dehors de Berne, où a donc lieu ce rassemblement, la Femme au Veau. Rassemblement qui a lieu sur 4 jours, ça a commencé jeudi, aujourd'hui on est samedi 2 septembre, et quand on va publier le podcast, ce sera déjà mardi 5, donc le week-end et le rassemblement sera passé, mais on s'est dit que ça, c'est chouette de vous faire un compte-rendu. Et de toute façon, on allait visiter ça nous, donc on s'est dit pourquoi pas prendre notre petit micro avec.
Troisième édition de ce festival national féministe, avec un programme vraiment très riche qui passe des perspectives féministes sur l'économie communautaire. Il y a un atelier sur le langage, la pose de voix à propos du travail du sexe. Il y a des échanges avec une mobilisation de femmes indigènes qui habitent en Colombie et Venezuela, les Wayuu, si je prononce à peu près juste. Un atelier sur les questions trans, d'autodéfense justement, yoga tous les matins et partie tous les soirs.
Oui, et puis avec possibilité d'hébergement, en fait, on peut carrément dormir là-bas. Nous, on n'a pas fait ce choix-là, mais intéressant. Mais ouais, je trouve aussi très intéressant ce truc que, voilà, c'est un événement, disons, helvétique, donc il s'adresse à toute intéressée en Suisse. Et je trouve ça c'est intéressant parce qu'elles ont vraiment fait un effort aussi de traduction par rapport à leur site internet. Donc pour contextualiser, en Suisse il y a donc 3 langues officielles, l'allemand, le français, l'italien, et oui, Alessandra me fait un signe, il y a en fait une 4e langue qui est parlée par à peu près 0,5% de la population suisse, et c'est le romanche, et après il y a évidemment aussi des dialectes qui s'ajoutent à tout ça. Et ça fait que multilinguisme fait que c'est pas forcément facile de dépasser les barrières de langue pour s'organiser et s'unir, notamment voilà entre, si on prend l'exemple de nous, enfin entre Suisse romande et Suisse allemagne, ou encore avec la partie qui parle italien. Non, mais du coup ça je trouve intéressant parce qu'elles ont vraiment fait cet effort de traduction. Qui n'est pas toujours le cas. Et ça, je trouve, c'est aussi quelque chose dont j'aimerais discuter avec elle et ce que j'attends de voir là-bas, en fait. Comment ça se déploie, comment on fait ça. Parce que c'est une chose de le faire sur le site internet, mais comment tu le fais, entre guillemets, en live, pendant les workshops, pendant les événements.
Oui, et puis dans cette dimension, de nouveau, qui est très présente dans toute l'organisation, c'est « do it yourself », donc vraiment de solliciter, c'était très ouvert sur la programmation aussi, de pouvoir proposer des ateliers, qui a des idées, quelles sont les questions dont vous voulez vous emparer. Est-ce que toi, tu as des attentes particulières sur cette journée?
Mais pas vraiment, en fait. Ce n'est pas vraiment dans quoi on s'est lancé. Et je me réjouis de voir ça. Mais en tout cas, juste en parcourant leur site sur l'organisation, je trouve... En fait, elles mettent l'accent pas seulement sur l'agir, mais beaucoup sur le fait de discuter, d'apprendre ensemble dans un environnement safe et inclusive. Et vraiment, sur leur site, à un moment, c'est écrit que c'est un endroit pour discuter, apprendre et agir. Et je trouve ça très intéressant d'avoir ce moment de réflexion collectif. Je me réjouis de voir comment c'est mis en place là-bas.
Moi, j'ai une sorte de curiosité parce que c'est la première fois, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais c'est la première fois que je participais à un événement qui se revendique féministe, disons presque que féministe. J'ai pu faire des choses anticapitalistes ou comme ça où ces questions-là étaient présentes, mais que féministe, c'est la première fois. Et puis, de tout d'un coup vivre cette question qui est de se retrouver entre femmes, que trans ou biologiques. Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, est-ce que c'est donc cette identité politique femme qui vit des discriminations communes, ou est-ce que ça veut dire justement une créativité qu'on a dû toute mettre à un moment donné pour faire face à ces normes qu'on attribue au féminin? Et puis ce qu'on pourrait imaginer, c'est comme point de départ ou comme point commun entre ces femmes, c'est qui vont être présentes aujourd'hui, c'est d'avoir voulu ou de vouloir dépasser, transcender, transformer ces normes, non? Et ça peut être un chouette point commun à partager avec d'autres personnes.
Et ça, je trouve aussi assez intéressant. Je reviens encore à leur site internet, mais il y a, elles ont publié donc en anglais et en allemand, cette fois-ci, il y a pas en français, un texte qui s'appelle Awareness Text, et qui travaille aussi, en fait, elles mobilisent pas mal les différentes définitions, elles les déconstruisent. Ouais, ça, je trouve intéressant tout ce truc sur le langage. Apparemment, ça, en tout cas, quand tu parcours le site internet, ça paraît très important. Il y a vraiment un travail là-dessus. Et aussi dans une histoire de traduction, je trouve que c'est un effort assez considérable parce que je pense que certains termes ou définitions liés aux questions de genre, de sexe, en allemand, c'est pas du tout la même chose en français, en anglais. Enfin, il y a différentes manières. Moi, je ne suis pas hyper... disons spécialiste de tous ces termes, et quand on met un astérix, quand on met une ligne en dessous, mais j'imagine aussi que ça peut changer. Bah, tu vois, là tu plisses les yeux, mais parce que justement j'ai découvert en fait en parcourant leur site qu'on peut aussi faire le underscore pour mobiliser des idées de nuances dans les définitions, notamment de catégories de sexe.
Alors effectivement, dans ce texte donc de prise de conscience, il y a comment construire cet espace sécure avec effectivement cette notion de langage. Moi, je ne sais pas en fait l'interligne, je sais pas comment on dit l'underscore en français, mais l'astérisque, c'est une manière de justement pas arrêter une définition. Elle mobilise par exemple, donc c'était en anglais, en allemand, mais en anglais le oui, le nous, et le nous, il est écrit avec cet astérisque. Pour le laisser ouvert, en fait, pour illustrer le fait qu'il comprend différentes identités, expressions de genre, puis que c'est pas le but d'être clairement défini, ce « nous ». Alors, effectivement, ça implique aussi qu'il y ait des personnes transgenres, genderqueer, intersexes, qui soient présentes dans ce « nous ». Et je voulais aussi revenir sur cette notion de « safe space », qu'on utilise en anglais, un endroit sûr, où dans ce texte, elle évoque un « safer space », un endroit un peu plus sûr, un endroit plus sûr, en disant qu'on ne peut pas vivre hors d'une société qui par ailleurs peut être discriminante, donc on ne peut pas vraiment construire un endroit qui soit absolument sûr en termes de non-discrimination, mais qui soit un peu plus sûr. Et je trouvais que c'était une invitation de réflexion intéressante, ce un peu plus sûr. Et effectivement, donc elle donne toutes ces pistes pour que chacune se sente respectée et inclus dans le processus.
Après aussi, sur ce terme de processus, je trouve, c'est juste une petite remarque, mais je trouve assez bien, ce awareness text se termine...
Fribourg.
Ah, on a encore... on vous partage le soundtrack suisse. Cet awareness text, il se termine avec la phrase « This is a work in progress », en disant que voilà, c'est pas un texte et ce n'est pas des définitions fixes, mais qui peuvent être travaillées à nouveau, retravaillées, retransformées. Et je pense que c'est, en tout cas, comme moi je l'ai compris, un peu l'esprit du festival, que c'est un événement en transformation où les participantes sont quelque part aussi organisatrices ou en tout cas contributrices du festival. Bon, on va voir si c'est le cas, mais...
Oui, une manière justement politique de penser toute cette structure jusque dans ces détails. Et puis, si on parle de la dimension politique, il y a cette notion de non-mixité qui est aussi mise en avant par le festival. Donc, non-mixité en termes de genre, ça veut dire que toute personne qui se vit comme féminine est bienvenue. Et donc les personnes qui ne sont pas invitées à ces jours, c'est les hommes cis, donc des hommes qui ont une identité, une expression de genre qui correspond au sexe masculin qui leur a été attribué à la naissance. Et cette notion de non-mixité, elle est quand même à comprendre dans le sens d'un temps politique important.
Oui, c'est vrai qu'on en a déjà discuté aussi autour de cette web-série Les Foxy Five, qui justement discute de cette notion, ce concept, cette notion, ou même c'est une pratique activiste aussi de non-mixité, où en fait c'est aussi un outil militant très important, justement qui permet à des communautés ou à des groupes discriminés, de prendre des moments pour se mobiliser en l'absence de personnes, disons, dominantes ou qui en tout cas représentent des rapports de domination.
Moi, il me semble qu'il y a deux axes qui sont importants à transmettre ici. C'est le fait que ça permette de ne pas revivre une situation de sexisme, si là on reste en termes de genre. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir, quand on parle de safer space, c'est un endroit où les, ces jeux de pouvoir ne vont pas être présents. Donc il n'y aura pas des enjeux de prise de parole en termes de genre qui vont être compliqués. Il y aura une, aussi un travail sur les mots utilisés qui n'auront pas le même écho, que ce soit auprès des personnes discriminées ou qui sont dans la position sociale discriminante. Et puis c'est pour penser, pour pouvoir... tu sais, on en avait parlé avec William quand on avait fait l'interview de Libre Radio. De cette importance de pouvoir, quand on a peu de temps, le consacrer à avancer sur des questions pointues et pas devoir consacrer le temps à expliquer aux personnes qui sont dans des situations de privilège à quel point elles le sont et à quel point elles peuvent être inconscientes de ces privilèges.
Oui, et ça, peut-être je m'éloigne un peu, mais ça c'est intéressant. Par exemple, Rokhaya Diallo, qui est cette afro-féministe, ou plutôt elle-même se définit comme une féministe décoloniale française, elle parle aussi de l'importance pour les gens, c'est bizarre de dire les gens dominants, mais comment dire, les gens, disons les gens alors qui ont certains privilèges, de en fait faire eux-mêmes la recherche, et toi aussi tu as déjà parlé de ça, mais faire les recherches nécessaires qu'il faut pour remettre en question leurs propres privilèges et pas toujours demander aux personnes qui subissent des discriminations d'expliquer comment tout ça fonctionne. Parce que c'est vrai que souvent, moi je peux parler en tant que femme blanche, mais en tant que femme et féministe, tu passes un temps fou à expliquer aux gens ta posture.
Et puis, pour faire la boucle avec tout ce qu'on a avancé, cette idée de nous, de oui, avec l'astérisque qui laissait une identité ouverte, justement, cette pensée, cette non-mixité, non pas comme dans une condition féminine, mais autour de projets, dans des coalitions, ce qui permet aussi d'intégrer toutes les différentes expériences vécues par les femmes et de ne pas dire il y a une expérience, il y a une manière d'être femme, qui était un des écueils aussi des mobilisations des années 70. Donc de penser en termes de projet, de coalition, et c'est ça en fait qui va probablement nous unir aujourd'hui, c'est de penser les choses dans une perspective féministe, des objectifs féministes, et là du coup on peut être transversal entre les expériences de chacune.
Yay, on se réjouit. Bon, alors Alessandra, nous sommes sur le retour du festival où on a passé quelques heures. Et là, on est posé sur une esplanade à Berne, la capitale de la Suisse, proche de la fosse aux ours. Et ouais, on va faire ce petit compte rendu.
C'est ça, face à un ours qui est même sculpté derrière nous. Tu veux commencer ?
Oui, alors, sur le retour du festival, on y a passé quelques heures, le temps d'un workshop matinal ou en matinée, et puis un repas chaud à midi. Mais après, quand elles ont annoncé les sujets des workshops de l'après-midi, on a profité pour en partir, pour disparaître.
Ça s'appelle fuir, ouais.
Que dire, Alessandra ? Disons que nos attentes n'ont... Enfin, ouais... Peut-être nos attentes étaient trop... nos attentes étaient peut-être un peu hautes.
Ben en tout cas, ça a permis de se rendre compte de ça. C'est qu'en fait, il y en avait des attentes parce que ce qui nous a poussé à partir, c'est un peu un sentiment de déception. Et pour ma part, je me suis rendu compte qu'en fait, je pensais que se réunir dans ce contexte revendiqué comme féministe, ça permettrait de commencer un échange, une réflexion entre initiés. Et puis initiés, ça veut dire sur les thèmes, sur les outils d'une perspective féministe, avec des points de vue diversifiés certes, mais qui étaient engagés politiquement. En fait, je pensais découvrir des mobilisations, des actions de militantes en Suisse. Et je pensais surtout que je me sentirais en adhésion dans ce groupe réuni comme ça de façon éphémère, mais non. Et pour expliquer aussi ce qui a fait que finalement on avait des projets de faire des interviews sur place qu'on ne s'est pas senti de mener. Mais en fait, je me suis dit qu'il fallait changer, ben, comme les lunettes, ou bien changer de cadre posé justement au niveau des attentes par rapport au décor d'aujourd'hui. Parce que, en fait, c'était bon, une rencontre entre des personnes qui se reconnaissent comme femmes. Il n'y avait pas que des femmes déclarées femmes à la naissance, qui avaient la volonté d'échanger, que ce soit des savoirs, des infos, mais surtout de l'énergie et puis du temps partagé. Et si effectivement, moi, je ne me suis pas du tout sentie de partager les ateliers de l'après-midi, parce que c'était travail du corps, de la voix, spiritualité ou écriture de banderoles, mais sans projet bien défini, bah, je comprends et je respecte qu'en fait, il s'agissait d'un temps de ressources pour ces femmes, d'installer des tentes pour y vivre bah, d'autres thématiques que celles proposées au quotidien, dans un autre rythme.
Oui, et je pense que, enfin, moi, ça m'a quand même beaucoup frappé, la non-mixité du festival, parce que c'est vrai que bon, je me rends compte que moi, je n'ai pas du tout l'habitude de ce type d'événement. Et ça met vraiment une ambiance particulière, je pense, un temps, ouais, est-ce qu'on peut dire plus safe, ou en tout cas un espace, entre guillemets, plus safe. Où certains rapports de genre ou rapports de domination qu'on peut vivre en tant que femme au quotidien, tout à coup, c'est pas qu'elles sont plus présentes, mais elles sont en tout cas éloignées, et tout d'un coup, on peut aussi se concentrer sur autre chose. Mais en plus, j'ai trouvé assez drôle parce que le festival avait lieu dans un endroit assez isolé, dans une forêt en banlieue de Berne. Et en fait, quand nous sommes partis du festival pour prendre le bus et qu'on a émergé de la forêt, c'était comme ça un sort de retour à la réalité, à une autre ambiance. Et en plus, c'était assez drôle parce qu'en sortant de la forêt, on s'est trouvé face à un stade de foot avec un match de foot masculin. Donc, une autre forme de non-mixité, mais là, qui ne soulève pas de controverses.
Oui, et puis, ça, c'était très important, je pense, que ce cadre où il fallait longer ce stade de foot, il fallait traverser une rivière, longer un étang, entrer dans une forêt. Et puis là, c'était à gauche. Et je pense que, en fait, il n'y avait pas d'objectif clair à cette édition du FEMU, et on a quand même parlé un petit peu avec des personnes qui l'ont organisé, et c'était le cas pour les éditions précédentes, parce qu'il n'y avait aussi pas forcément, il n'y a pas l'énergie ni la disponibilité pour en faire des archives, pour des publications post-événement, mais ça accompagne une non-volonté politique de cadrer ce moment. Il n'y a pas une organisation qui guide l'événement vers une finalité précise. Il n'y a pas un comité en charge du contenu. Et puis ça peut aussi être intéressant de se décaler d'une obligation de résultat, en fait, à une rencontre.
Oui, finalement, peut-être que justement cette non-mixité, c'était en fait ça vraiment l'âme, si on peut dire, du festival. Et, parce que toi et moi, on a discuté de on essayait justement de comprendre quel est l'objectif du festival. Et peut-être que c'était justement ça, en fait, de proposer ce moment, ce temps, en fait, comme tu viens de dire. Et quelque part, le fait de proposer quelques jours en non-mixité avec des activités assez différentes, en fait, les unes des autres, c'est quelque part un acte militant en soi.
Oui, et puis il y a ces personnes de base qui sont mobilisées pour trouver cet endroit, pour l'aménager. Il y avait quand même une logistique qui était présente. Et puis finalement, c'était une ouverture à ce que les participantes proposent des ateliers spontanés. Donc c'est ces volontés de ces personnes présentes qui sont exprimées. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, si ça me plaisait pas, j'aurais pu ou j'aurais dû proposer un atelier, en fait.
Oui, et ça, je pense que justement ce type de festival, ce type d'organisation, ça peut être source d'inspiration pour l'organisation d'autres événements, parce qu'il y avait notamment ils proposaient un espace de garde pour les enfants qui était donc co-tenu par les participantes, donc on pouvait s'inscrire par exemple à la garde d'enfants, mais aussi en cuisine, parce que elle servait donc un repas chaud aux participantes à midi et je pense aussi le soir. Donc repartition des tâches, la nourriture végane, des boissons chaudes et froides à disposition tout au long du festival, amener sa propre vaisselle, faire sa vaisselle, donc vraiment aussi je pense que ça permet une prise de conscience sur qu'est-ce que c'est aussi d'organiser de tels événements, parce que c'est pas donné en fait, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de ressources.
Et puis on parlait dans le before événement de cet aspect linguistique propre à la Suisse, avec toutes ces langues. Et puis on voit là aussi que c'est pas évident. Je pense qu'on était vraiment en minorité linguistique, donc les ateliers étaient en allemand ou traduits en anglais. Donc ça, c'est aussi une donne de complexité par rapport à notre territoire helvète.
Oui, oui, c'est sûr. Après, moi, je trouve, voilà, que il y avait. On va pas forcément discuter maintenant ici, mais toi et moi, il y a plusieurs choses qui nous ont déçus, ou qui, peut-être même pas parler de déception, mais où nous, on s'y retrouvait pas par rapport aux attentes qu'on a eues. Et en fait, c'est difficile, je trouve, en tant que féministe, d'aller dans des événements annoncés comme féministe et justement de ressentir cette déception ou cette envie d'autre chose. Et donc souvent on a comme ça des grandes attentes et une réjouissance qui assez fréquemment s'écrase un peu comme une crêpe une fois sur place. Donc parce que nous, ça nous est déjà arrivé aussi dans d'autres circonstances, et même si on n'en a pas tellement parlé dans ce podcast. Mais pour moi, les moments comme ça les plus difficiles, c'est de me retrouver en fait dans des événements définis comme féministes, mais où j'ai pas l'impression que les personnes participantes ont de se remettent en question ou remettent l'événement même en question. Donc il y a pas d'autocritique, il n'y a pas ce réflexe de la remise en question, et ce truc un peu de tout est bon, tout est joli et nous sommes tellement bienveillants, bienveillantes, moi ça me tape littéralement, ça me tape pas littéralement, mais ça me tape sur les nerfs, et vraiment ouais, ça m'exaspère, parce que pour moi vraiment l'épine dorsale de mon féminisme, c'est la remise en question constante. Et après, je pense que bon, voilà, je suis peut-être aussi très exigeante par rapport à mon féminisme et par rapport aussi à au partage féministe que je peux avoir autour de moi. Et c'est vrai que voilà, je vais analyser les mots, les manières des gens, et peut-être encore plus quand la personne en face de moi s'annonce comme faisant une action féministe. Mais je pense quand même que si on parle plus généralement, cette remise en question, elle est en fait nécessaire au mouvement féministe aujourd'hui, dans toute leur multiplicité. Et en tout cas, si je réfléchis à certaines mobilisations que je vois actuellement autour de moi. Et il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est plus ou moins féministe, mais de rester en fait ouverte à la discussion et de reconnaître que des transformations saines peuvent en fait émerger des critiques au sein même des mouvements féministes, et que ce n'est pas une manière de se tirer une balle dans le pied, mais que c'est justement une façon de se construire et de se solidifier dans toutes les nuances que les mouvements féministes, dans lesquelles les mouvements féministes se définissent ou s'articulent. Après, c'est évidemment difficile parce que voilà, les féminismes sont déjà très attaqués de l'extérieur, et on a souvent peur de perdre le bout de terrain gagné, souvent à grands coups d'efforts, avec beaucoup d'énergie. Donc voilà, ça peut aussi faire peur de faire le choix d'avoir cette discussion critique à l'interne. Et justement, je pense que des rassemblements comme celui auquel nous avons participé aujourd'hui pourraient en fait constituer des lieux privilégiés pour avoir de telles remises en question.
Mais c'est vrai que ce que tu décris là, ça peut aussi ressembler à un aspect politique de l'engagement ou de la rencontre, dans cette remise en question, cette discussion critique. Et donc je précise qu'on a passé que quelques heures dans cet événement, donc loin de nous la volonté de faire un constat exhaustif. Mais c'est vrai que j'ai ressenti comme une dimension apolitique de ce rassemblement. Déjà aussi de le situer comme étant largement une mobilisation de personnes blanches. Voilà, dans une certaine classe d'éducation, voilà, il y avait comme ça un aspect assez homogène. Et je me demandais si finalement c'était un reflet d'une situation des mobilisations féministes en Suisse. s'il n'y a pas aussi quelque chose de particulier, mais c'est vraiment des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, mais est-ce que les féministes sont sur d'autres... ont l'impression peut-être que les choses sont acquises ici en Suisse, enfin les féministes qu'on a rencontrées aujourd'hui, justement situées plutôt du côté blanc de l'échiquier, plutôt bon niveau socio-culturel. Voilà, est-ce qu'il y a un manque de vision sur des enjeux qui peuvent être présents de manière plus cruelle ailleurs, je sais pas.
Ouais, je sais pas non plus. Après, je me demande aussi, par exemple, par rapport à notre propre posture, à toi et à moi. Donc, c'est aussi que voilà, nous, je me rappelle plus vraiment comment on a eu vent de ce festival, mais finalement, bah, c'est arrivé à nos oreilles et nous avons choisi d'y aller. Donc, est-ce que nous aussi, on est un public cible pour ce genre de d'événements, de par notre posture aussi sociale, socio-éco. Mais oui, mais ça, justement, moi, j'aurais trouvé assez intéressant de... Enfin, c'est génial, du coup, on a plein de femmes qui se revendiquent féministes comme ça, avec beaucoup de temps et de moments ensemble. Et bah oui, c'est un moment génial pour justement peut-être se regarder chacune, mais regarder le rassemblement et puis se dire ah bah qu'est-ce qu'il en est en fait, qu'est-ce qu'il en est, où est-ce que chacune voudrait aller pour le futur, enfin je trouve que c'est quand même des moments ça me paraît excellent pour mener ce type de discussion. Après peut-être voilà, nous on a juste passé quelques heures. Peut-être que lors des soirées ou tu vois ou des moments peut-être qui deviennent plus intimes où voilà il y a des discussions comme ça autour d'une table, peut-être que c'est des moments où justement ça mobilise ce type de questionnement, je sais pas.
Et puis moi ça m'a aussi mis la curiosité plus vive de l'histoire des mobilisations féministes en Suisse. Et puis vous trouverez sur le Postpod par exemple deux liens qui ont été identifiés dans nos recherches. Je vous les évoque vite en passant pour vous donner envie de vous y plonger. Vous rappelez qu'en 1912, à 33 ans, il y a la genevoise Émilie Gour qui fonde un journal qu'elle appelle le Mouvement Féministe et dont l'héritière, qui est maintenant en ligne sur le net, se nomme maintenant l'Émilie Dégourdie. Il y a eu plusieurs changements. Et là, elles ont fait tout un travail formidable d'archivage de cette publication. Donc, on trouve en ligne sur leur site les archives depuis la première publication de 1912. Donc là, je pense qu'il y aura aussi plein de pépites à aller piocher sur l'histoire des mobilisations. Et de l'autre côté de la Sarine, comme on dit, il y a une autre militante qui est bernoise, Marthe Gostely, très active dans les années 60-70 et qui est morte là en avril dernier dans sa 100e année. Et elle a fondé en fait les archives de l'histoire du mouvement féministe suisse. Donc ça aussi, ça me donne envie de situer ce qu'on a vécu aujourd'hui dans une histoire plus longue.
On s'arrête là pour aujourd'hui ? Ah non, Alessandra a encore quelque chose à dire.
Bah pour dire que les perspectives aussi pour nous, les rebondis positifs de cette journée, c'est qu'on s'est rendu compte en fait à quel point on avait envie de mobiliser ces outils féministes qui soient critiques mais également créatifs et propositionnels dans d'autres champs sociaux.
Que le féminisme forcément.
Voilà, donc plein de projets et en fait on continue à se fortifier dans le fait de mobiliser cette perspective-là dans toutes sortes de domaines de la société.
Oui, et puis aussi dire que petit changement de temps de publication, parce que je dirais dû à nos obligations de boulot, on a décidé de publier maintenant Crépidule toutes les 3 semaines. On ne vous lâche pas, on est toujours là. Mais toutes les 3 semaines. En tout cas, je me réjouis de la rentrée podcastienne.
Et alors, qu'est-ce qu'on souhaite, puisqu'on ne peut plus souhaiter de joyeuse quinzaine, une joyeuse trizaine. Allez, salut Lynn.
Ciao Alessandra. Il faut dire tchuss.
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 Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le Postpod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter, aussi sur iTunes.